Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
L'Intégral Sport jusqu'à 18h sur RMC avant le retour du Super Moscato Show lundi 15h avec Vincent Moscato que l'on va avoir en ligne tout à l'heure, Adrien.
Salut Pierrot, dans le monde là. On l'a vu ce matin, il est calé entre 17h et 18h, il va nous faire un petit coucou.
Le pire de son été étant déjà passé, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas à l'antenne tout à l'heure.
Est-ce qu'on va l'interroger un peu sur l'actualité sportive, Pierrot?
Ah, je crois que tu allais me demander sur son combat de boxe avec son escalier de jardin.
Alors ça, ce sera une priorité, ce sera la première question, mais on va vérifier s'il a suivi quand même le Tour de France.
Oui.
Les mésaventures de la Nouvelle-Zélande en rugby, je ne sais pas si tu as suivi ça, Pierrot.
Oui, mais lui,
c'est la crise chez les Blacks, mais je pense qu'il n'a pas vu un seul match de rugby cet été.
Vincent sera avec nous dans l'après-midi, mais oui. On ne vous dit pas quand, bien entendu, parce qu'on veut que vous écoutiez toute l'émission. Donc si on vous dit à quel moment il est là, après vous allez être déçus, vous allez attendre lundi.
C'est une technique radiophonique, c'est voilà. Ça
donc peut-être qu'il ne sera qu'à 17h55,
hein,
je ne peux pas vous prévenir tout de suite. En revanche, il y en a deux qui sont là, oui. Fidèles au rendez-vous, en direct de Munich, et qui nous attendent de pied ferme parce qu'on a encore une très belle journée d'athlétisme au championnat d'Europe. C'est Renaud Longuèvre et Aurélien Tiercin. Bonjour messieurs.
Salut à tous.
Ya, alles gut, alles klar.
Au bout de 4 jours, il parle allemand, Renaud. Il faut être polyglotte pour être entraîneur d'athlète, de toute façon. Hein.
Ouais, bien sûr. Et je vous arrête tout de suite parce que je vous ai parlé des bruits qui circulent, les points de carbone, tout ça. Mais là, le dernier bruit dans l'athlétisme qui circule, c'est que Adrien Aiguin aurait pris 10 kilos aux fêtes de Bayonne. À 2 ans des Jeux de Paris, je peux vous assurer que c'est la stupeur.
Tiens, donne un petit conseil pour perdre du poids à tous les gens qui ont fait des excès pendant les vacances.
Bah, faut déjà ralentir sur tout ce qui est féculent, le pain, les pâtes. Faut diminuer, diviser par deux tout ça. Remettre des légumes, des fruits. On attaque le matin avec une banane, un fromage blanc. On peut mettre un peu de noix, un petit peu de miel dedans. Et c'est tout.
Et c'est tout.
Hein. On va pas se beurrer des tartines et des trucs comme ça. Et il faut être dur avec soi-même, les amis.
Du sport. Mais alors le fantasme des protéines au petit déj, ça marche pas ça?
Mais le fromage blanc, c'est quoi, mon ami?
Non,
c'est
mais pas moi, des je pensais... Ah oui, mais si tu veux, moi, je pensais plutôt une belle tranche de jambon sur du pain. Tu vois?
Eh ben oui, mais
ça marche pas.
Jambon, alors, jambon, ok. Avec, enlève la couane. T'enlèves, tu le décoines bien. Et surtout pas de beurre avec.
Surtout puis, pas. Bon. Ah, c'est pas pas de beurre, c'est surtout pas de beurre.
Ouais, surtout
mais
pas de beurre.
Dis-moi,
le cholestérol, tu connais, ça bouche
le
les artères.
Le pain avec du jambon sans beurre au milieu, quel est l'intérêt, Renaud?
C'est un peu sec, hein, ouais, c'est un peu sec.
Bah, mais, se nourrir, alors, mon ami.
Alors, il joue les diététiciens, Renaud Longuèvre. Je rappelle que la dernière fois que je l'ai croisé physiquement, c'était à côté de Bercy, dans Paris, à la fête de l'Aligot.
Oui, c'est un.
C'était le concours du plus grand mangeur d'Aligot. Pierrot, t'aurais adoré. Il était bien présent, Renaud Longuèvre. Là, il n'y avait pas de banane et de fromage blanc. Là.
Alors
là,
oui, Adrien, moi j'ai fini dans les derniers alors que toi t'étais sur le podium.
Non, c'est pas vrai.
On va parler de discipline où il vaut mieux pas avoir un taux de masse graisseuse trop élevé, puisqu'aujourd'hui notamment on va faire long sur le 800 mètres avec des très belles chances de médailles françaises. C'est le deuxième tour et nos petits bleus pourraient nous réserver une belle surprise. Avant cela, il y a une très belle épreuve ce soir, le 400 mètres haies, la finale avec 3 Français et un extraterrestre, Warholm. Mais dans quel état est ça, on ne le sait pas. On sait juste que s'il est à son niveau, il n'y aura pas de course. Mais on va s'intéresser à cette finale parce qu'elle est franchement hyper excitante sur le papier, Renaud.
Oui, alors je corrige, il y a 2 Français et 1 Breton.
Hein, ah ouais, d'accord.
Victor Corollaire et Breton. Mais non,
elle
est super.
Bretagne veut faire sécession, donc, si j'ai compris.
Non, c'est top. Hein. Les gars ont fait vraiment le boulot comme il fallait dans les demi-finales. Corollaire, lui, n'a pas été dispensé du premier tour, donc c'est un peu plus dur pour lui parce qu'il a une course de plus. Mais Appio a maîtrisé. Et Ludwig Vaillant revient fort. C'est quelqu'un qui a fait 4e des championnats du monde en 2019. Par contre, le problème, on en parlait avec Aurélien, c'est que là où on a des Français qui sont très bons, il y a des monstres à la perche, il y a du Plantis, et sur le 400 mètres haies, il y a un Norvégien, un Viking qui s'appelle Carsten Warholm, qui s'est troué au championnat du monde parce que il revenait de blessure et qu'il était à court. Mais là, 3 semaines de plus à une cylindrée comme Warholm, le clan français craint malheureusement que le Viking soit costaud ce soir.
Alors au programme également cet après-midi, du tennis, du foot, du VTT. l'ATP et de la boxe, puisque on s'intéressera à Rafael Nadal à une semaine de l'US Open. Le PSG Galtier va-t-il savoir gérer le clash Neymar-Mbappé? Vous entendrez l'entraîneur du PSG. Et puis, c'est la course hein, VTT masculine au championnat d'Europe. Et donc, on vivra ça en direct avec Jérôme Coppel. Pauline Ferrand-Prévot sera notre invitée pour parler de la course féminine. Et puis, donc, la boxe, parce que, alors, je sais pas si tu es un fan de boxe, Renaud. Mais il y a un très beau combat ce week-end. Il y a la revanche entre Joshua et Usyk chez les poids lourds. T'aimes la boxe, toi, ou pas?
Oui, j'aime la boxe. J'ai un petit peu pratiqué, je vous avoue. J'ai fait quelques années dans un club qui s'appelait le Battling Club. J'allais faire un peu de boxe, mettais les gants. Avec Hervé Penaud, entre autres.
Un collègue.
Collègue journaliste,
à vous. Il ne doit pas te faire trop mal, non?
Non, ça va. C'est pour ça. Je prenais Hervé, moi, tout le temps, hein, quand il y avait des mises de gants. Mais oui, j'adore la boxe. J'ai plein d'amis... boxeur, je connais bien Dominique Natto, président de la Fédé, et oui, j'adore regarder la boxe. Et pour moi, c'est un sport. Même je faisais faire de la boxe à Abou Diaby, le joueur de foot, Karl Medjani, joueur de foot, des garçons que j'ai pris des fois en préparation physique, et je me suis toujours servi de la boxe pour la condition physique, parce que c'est super super cardio et c'est un superbe sport.
Joshua Usyk 2, donc à 17h30. Qu'est-ce qu'on a dans le journal moyen, Adrien, aujourd'hui?
On va faire l'appel pour savoir si tous les membres du Super Moscato Show seront bien présents lundi. C'est important hein, avant la rentrée de savoir si les effectifs sont au complet. Et puis une question, est-ce qu'on peut être champion du monde de foot, millionnaire et un peu radin dans la vie? C'est possible ça quand même.
J'ai la réponse.
C'est possible ça? Non mais c'est dingue.
On en connaît, on peut balancer des noms.
On va parler d'un champion du monde allemand dans le journal moyen.
Non, mais il doit y en avoir un ou deux.
Serait un peu radin, oui.
Les directs également, parce que les championnats d'Europe continuent, notamment en tennis de table. Morgane Maury, bonjour Morgane.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui dans les tableaux de simple, hein, les Françaises et les Français sont en lice.
Oui, ils ne sont plus que deux. Diana Nguyen dans le tableau féminin, 8e de finale, et tout à l'heure Alexis Lebrun, 8e de finale homme. Et on ne se beurre pas la tartine, Pierre, dans ce 8e de finale féminin. Diana Nguyen dans sa tenue rouge. La Française mène 1-7-0, 11-7 dans la première manche face à la 37e mondiale, l'Ukrainienne Margarita Pezotska. Si ça gagne, le quart de finale aura lieu ce soir, et si à victoire, rendez-vous demain pour les demi-finales. En tout cas, elle a bien commencé son 8e de finale. Elle mène 1-0 face à Pezotska. Et à 15h50 chez les garçons, Alexis Lebrun, 18 ans, premier mondial chez les juniors, 30e mondial chez les seniors. Il va affronter le Suédois Christian Carlsson, 19e mondial, qui vient de sortir son petit frère Félix Lebrun, 15 ans, les frères Lebrun qui étaient en bronze en double il y a deux jours.
Une question technique, Morgane, toi qui sais tout, est-ce que tu es capable de me dire à quelle hauteur la Française Yuan lance sa balle au service?
Aucune idée.
Mais normalement tu sais tout, Morgane, non. Ça va pas là hein.
Approximativement.
Non, à peu près 3 mètres, quelque chose comme ça.
Pas plus. 3 mètres, ouais. C'est très impressionnant, quoi. C'est invraisemblable. Il faut être d'une précision diabolique. Ouais,
avant, il aurait su Morgane. Là, ouais, il y a quelques années.
Il y a
du relâchement.
Aurélien, tiens, on va faire le point sur la matinée d'athlée à Munich, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment sur le 800 mètres féminin.
Ouais, exactement.
Et avec les relais.
Avec Renelle Lamotte qui est triple vice-championne d'Europe, elle collectionne les médailles d'argent du 800, une fois en indoor, deux fois en plein air. Elle a un mental parfois un peu fragile. Elle se contente pas forcément de ce qu'elle fait. Elle est sortie en demi-finale des mondiaux de Eugene. Elle se sentait pas très bien, donc elle est arrivée un petit peu tremblante à Munich, et ça s'est super bien passé. Elle a géré en patronne sa demi-finale en 2 minutes et 23 centièmes. Donc Renelle qualifiée en finale du 800 mètres. Sur les relais, on a fait un joli 3-4 avec le 4x100 mètres masculin, avec notamment Michael Zézé au départ et Jimmy Vico pour terminer le relais. Deuxième meilleur temps des demi-finales derrière les Allemands, donc avec une belle chance de médaille. Le 4x100 féminin, là aussi jolie surprise avec le troisième temps des engagés en finale, avec probablement un peu moins de chance de médaille, mais pourquoi pas une bonne surprise. Le 4x4 masculin, sans Thomas Jordier, qui est l'atout principal de cette équipe, s'est qualifié avec le sixième temps. Malheureusement, le 4x4 féminin est éliminé. Et puis à la hauteur, Renaud, Solène Gicquel, 1m87, Ça faisait un moment, 10 ans, plus de 10 ans, qu'une Française n'était pas allée en finale de la hauteur en Europe.
Oui, c'est vrai, elle a su prendre sa chance. Là aussi, c'est pas une Française, hein, c'est une Bretonne, il faut le préciser. Et d'ailleurs, elle est du club dans lequel j'ai débuté l'athlétisme, le Stade Rennais, et son papa, Jean-Charles Jiquel, a toujours le record de France, avec 2m35. Alors, en extérieur, c'est Anani 2m34, mais Jean-Charles Jiquel, le papa donc de Solène, avait fait en 94 à Bercy une très belle médaille d'argent au championnat d'Europe. Donc, c'est une lignée, et la grande sœur, je crois, de Solène Jiquel est en équipe de France de volley, est professionnelle de volleyball. Donc c'est une grande famille d'athlètes avec un gabarit qui permet d'exceller dans des sports comme le volley ou la hauteur. Mais en tout cas, il pleuvait ce matin, c'était des conditions qui étaient très très difficiles parce que vous savez, en hauteur, faut s'incliner dans le virage, alors que quand la piste elle est mouillée, ça donne pas confiance, quoi. On risque de glisser et dernier essai, 1m87, c'était grosse pression sur elle, et poum, elle passe. Et franchement, on peut pas dire exploit, mais c'est fort, parce que en général, quand c'est le premier championnat, ben ça écrase un petit peu, on est quand même beaucoup moins relâché. Et arriver à sortir une perf comme celle-là, moi je dis vraiment bravo, elle et son coach Marc Robert.
Et tu sais quoi, Renaud, si c'est une vraie Bretonne, elle met du beurre sur cette tartine de jambon. Allez, on démarre sur le 400. Alors c'est à 22h la finale, hein, Aurélien, et ça va être un des grands moments de cette semaine, en tout cas pour l'équipe de France et puis même pour l'athlète européen, puisque cette finale, c'est 3 Français et un extraterrestre, à savoir Wilfried Apio, 4e des mondiaux il y a 3 semaines, Ludwig Vaillant, 2e chrono des demi, et Victor Corollaire, première finale internationale à 25 ans, et puis Karsten Warholm, le recordman du monde du 400. Ouais, on va démarrer par lui quand même, parce que c'est quel Karsten Warholm qu'on va voir, c'est le vrai, celui qui court en 45 secondes et quelques, ou c'est celui des mondiaux?
Ah, ça va être le grand Warholm, a priori. Peut-être pas celui qui court en 45-94 quand il avait époustouflé tout le monde à Tokyo au jeu l'année dernière. Mais il a pris une telle claque quand même aux mondiaux. Alors c'est vrai, il était blessé. Il s'est claqué à Rabat en Ligue de Diamant au début de l'été. Et du coup, il a pas du tout couru avant d'arriver aux mondiaux de Eugene. Donc c'était quasiment mission impossible pour lui. Il a quand même réussi à passer les tours. En finale, il a complètement bloqué dans la dernière ligne droite. Wilfried Apio, d'ailleurs, avait réussi à le suivre, d'ailleurs ils étaient dans la même demi-finale, il avait réussi à suivre le Norvégien. En finale, il l'a complètement mangé. Mais voilà, Karsten Warholm, c'est un titre de champion d'Europe, 2 titres de champion du monde et un record du monde totalement exceptionnel au niveau mondial. En plus, il emmène avec lui le Brésilien Alisson dos Santos, il y a aussi l'Américain Ray Benjamin. Bref, il y a une énorme émulation sur le 400 en ce moment. Donc après les mondiaux de Eugene, Renault, on pense que Karsten Warholm, s'il ne va pas chercher un chrono sous les 46, ça paraît compliqué, surtout dans les conditions actuelles. Mais on pense qu'il va remettre les pendules à l'heure.
Oui, là, c'est vrai que la question de Pierre, c'était est-ce que c'est la version 45-94 ou la version de Eugene avec explosion comme un pop-corn à la 8e EA. Moi, je pense que c'est une version hybride au milieu, quoi, parce que il a pas besoin non plus de faire le record du monde pour être champion d'Europe. Et puis il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que au championnat du monde à Eugene, au départ d'une course, quand tu t'appelles Karsten Warholm, t'es recordman du monde, t'es champion olympique, t'y vas pas pour faire troisième. Donc le rythme, il a tenté d'aller contrer Alisson dos Santos, donc c'était suicidaire, il le sait maintenant, c'est-à-dire que la course lui a montré que où était sa limite quelque part. Mais là, sur une finale de championnat d'Europe où j'ai envie de dire il a juste à contrôler les Frenchies et le Turc, la stratégie et la tactique de course lui laisse quand même la capacité de partir avec un peu plus d'économie sur le premier 200 mètres. Il n'est pas obligé de s'exploser les poumons sur le premier 200 pour être capable de bien finir et de faire 47-50 ou je ne sais pas 47-30, ce qui pour lui reste pas grand chose au regard de son record du monde.
Tu veux dire que même donc, un hybride est champion d'Europe, en fait, c'est ce que tu veux nous dire, quoi.
Bah oui, enfin après je rêve, là encore, hein, mon cœur est français, hein, les amis, vous le savez. Donc je ne demande qu'à voir un Wilfried Apio exploser Stéphane Diagana et son vieux record 47-37. Il était qu'à 4 centièmes.
Ah oui.
Pourquoi pas, on peut rêver de tout.
Et ça reste les Renault, il va pleuvoir ce soir, on attend de l'eau. ça reste des haies, oui. On peut glisser, on peut tomber, oui. On a vu Sacha Zoya sur le 110 mètres haies, c'est toujours piégeux ces histoires-là.
Renaud, qu'est-ce qui fait que Warholm est un extraterrestre? Quel est son style? Qu'est-ce qu'il a en plus des autres? Je sais pas, techniquement, alors physiquement oui, mais qu'est-ce qui est original chez lui?
Il a de la vitesse, énormément de vitesse. Déjà, il faut savoir, c'est un garçon qui a fait du décathlon. Donc, il a des références, je les ai pas en tête, mais je crois que c'est un garçon qui a sauté plus de 2m10 au saut en hauteur. Et il est pas très, très grand, hein. Je veux dire, il fait la taille d'Aurélien, hein. Donc, Aurélien, il fait 1m10, lui, au saut en hauteur.
Quand même. Donc, 1m88, soyons précis.
1m88. Donc, voilà. Non, Warholm, c'est des qualités athlétiques hors du commun qu'il a développées à travers le décathlon. Il s'est spécialisé sur le 400 mètres haies assez tard. Il a une physiologie qui est extraordinaire, mais c'est surtout animé par un mental de dingue. C'est-à-dire que c'est un viking dans la tête et il a pas peur de prendre des risques, quitte à exploser comme au championnat du monde. C'est-à-dire que c'est des garçons, la tête va plus loin que le corps et c'est le corps qui le stoppe, quoi. Donc voilà Warholm.
Warholm sera au couloir 4 et Wilfried Appio au couloir 3. Est-ce que c'est un atout pour le français?
Oui.
Ouais.
Très très clairement parce que ça va être il va pouvoir jauger dans son champ visuel, savoir où est Warholm s'il part très très fort comme d'habitude et je pense qu'à Pio, ça va pas le faire paniquer de voir Warholm partir vite et ça va lui permettre justement de se caler un peu sur son rythme mais pas trop non plus pour pas aller au suicide. Donc voilà, maintenant est-ce qu'il aura assez d'essence pour suivre le dragster Warholm jusqu'à l'arrivée, c'est ça la question.
Alors sur ce que vous avez vu là depuis le début de la semaine, quel est le mieux armé des trois tricolores?
C'est forcément Wilfried Appio. Il a contrôlé sa demi-finale. On espère que physiquement ça ira bien. Est-ce qu'il a tout donné aussi? Parce que là, cette fameuse saison a de grosses compétitions. Il faut deux pics de forme. Alors est-ce qu'il ira aussi vite qu'à Eugene où en plus les conditions étaient excellentes? Il faisait chaud, il faisait bon, la piste est rapide à Owe Ward Field de Eugene. Renaud l'a dit, il était arrivé à 4 centièmes du record de Stéphane Diagana, qui est un record évidemment éminemment mythique de l'athlète français. Qui tient depuis 20 ans, un peu plus même. Donc c'est un Wilfried Appio qui a un été extraordinaire, qui a maîtrisé sa demi-finale. Et là, il fait partie des favoris. C'est aussi un nouveau statut pour lui au niveau international.
Renaud.
Non, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est, je suis d'accord avec Aurélien, c'est-à-dire qu'il a contrôlé plus que l'autre français Ludwig Vaillant. Ludwig a poussé, ça c'est très clair, il a couru d'ailleurs plus vite et il a envoyé plus fort. Donc Appio a peut-être mieux géré. Par contre, c'est vrai que la sortie de Wilfried Appio en Diamond League entre Eugene et ici, elle était pas très très probante, il était pas saignant. Lui et son coach l'avaient dit, ils avaient retravaillé, il était pas au top. Mais il y a quand même une question, est-ce qu'il est capable de reproduire ce qu'il a fait à Eugene? Si c'est le cas, moi je dis très 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 fort, parce que c'est quand même sous 48, il l'a fait qu'une fois de sa vie, parce que même en demi-finale à Eugene, il l'a pas fait. Donc s'il recourait là sous 48, même s'il fait deuxième, moi je dirais quand même bravo pour
Alors la finale est à 22h, hein, si on tient les horaires. Il y a parfois quelques minutes de retard, mais grosso modo ce sera aux alentours de 22h. Donc avec trois Français au départ et Carsten Warholm, le recordman du monde, c'est le 400 haies. On espère une médaille, on en espérait une peut-être, hein, en cas d'exploit de Quentin Bigot hier au marteau. Mais alors rien ne s'est déroulé comme prévu et Quentin, septième de cette finale, est avec nous en direct dans l'Intégral Sport. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors, quand on est avec Renaud Longuev qui est à Munich, toi tu es rentré ou tu es toujours sur place?
Non, je suis toujours à Munich, hein, je reste avec l'équipe de France jusqu'au bout sur le championnat.
Je disais que rien ne s'est passé comme prévu parce que tu devais lancer en premier, le concours a été retardé par la forte pluie à Munich et il y a eu un enchaînement de petites choses qui ont abouti entre guillemets à la catastrophe, c'est-à-dire à une blessure en fin de compte au dos qui t'a empêché de disputer réellement tes chances.
Ouais, tout à fait. Après, sur le premier essai, je me fais mal au dos. En fait, je suis déséquilibré un petit peu en finale. Je sors un peu de l'axe et en fait, pour pas mordre le lancer, je compense un peu avec la hanche droite et en fait, je me fais communément ce qu'on appelle un labago et ça me bloque le nerf sciatique en fait, donc ça me le pince. Et ça a été vraiment compliqué sur la suite du concours, sur les deux essais ensuite. J'arrivais vraiment pas à lancer normalement. C'est pour ça que j'ai lâché le marteau dans le filet. Hein. Tout le monde a pu voir ça. Et puis ensuite, bon, bah, sachant que j'étais passé dans les 8, je me suis dit, de toute façon, j'avais rien à perdre. La médaille, là, ça va vraiment être compliqué à chercher avec un mal de dos. Mais je me suis dit, bah, lâche rien. De toute façon, c'est la dernière compète de la saison. Et j'essayais vraiment de travailler sur de la technique. Donc, j'étais pas vraiment dans la compétition à proprement parler. Je voyais les autres qui se battaient pour des médailles. Et moi, je me battais pour essayer de faire la meilleure paire possible. Donc, ce que j'ai réussi à faire, puisque je sauve les meubles au dernier avec 77-48. En ayant vraiment mal au dos, donc c'est vraiment dommage parce que le podium était accessible, hein, 79,45 m. Je pense que si j'avais pas eu mal au dos, j'aurais pu être à la bagarre pour aller chercher cette troisième place. Donc c'est frustrant, déception, mais en même temps c'est pas de chance de se faire mal au dos comme ça, quoi.
Et il y a une histoire de chaussures, de glissade, de sol mouillé au départ, non?
Ouais, tout à fait. Alors en fait, l'histoire, c'est que déjà à la base, ils ont retardé le concours à cause de la pluie. Et donc on nous a dit, par contre, vu le délai qu'on a, dès qu'on repart, vous lancez directement. J'étais premier dans l'ordre de passage. Moi, je leur ai dit, mais c'est pas possible, parce qu'on sait pas comment le plateau est mouillé. Donc au départ, ils voulaient pas nous laisser tester le plateau. Et bon, on s'est mis un peu tous ensemble et on a pu aller voir. Et j'ai vu tout de suite qu'avec mes Adidas d'habitude, ça glissait. Donc j'ai dû changer de paire de chaussures deux fois pour au final mettre des Nike avec lesquelles j'ai pas l'habitude de lancer, mais bon, l'échauffement s'est quand même bien passé avec ces chaussures-là. J'étais dans mes standards habituels d'échauffement, donc pas d'inquiétude, mais c'est vraiment le premier essai qui m'a mis dedans. Après, je pense que le mal de dos, oui, il peut être causé par le fait qu'on est attendu un peu plus longtemps que prévu, que j'ai eu un petit coup de stress. Et bon, ça a été surtout provoqué par un faux mouvement en finale du geste, quoi.
Renaud, t'aurais pu trouver des points de carbone pour Quentin quand même.
Malheureusement, le Quentin évidemment le sait. Au marteau, c'est un peu l'inverse. Hein.
Faut
s'ancrer dans le sol. Les lanceurs de marteau doivent s'ancrer tel un arbre avec ses racines dans le sol et surtout pas rebondir. Donc c'est d'autres chaussures. Hein.
Alors ça reste malgré tout une bonne perf avec un jet à plus de 77 mètres en étant diminué physiquement. Merci beaucoup Quentin.
Merci Quentin.
Merci Quentin.
Merci à vous.
Et à bientôt sur RMC. Dans un instant, on va parler 800 mètres parce que là, on a le deuxième tour ce soir pour les garçons. Gabriel Tual, Benjamin, Robert, Renel Lamotte continue son parcours également. On va parler de tout ça avec vous. Il y a aussi peut-être un petit espoir de médaille, non, pour les Bleus?
Ah bien sûr, Gabriel Tual et Benjamin Robert. On en parlera, il y a une concurrence qui n'était pas forcément prévue, on aurait parce que Gabriel Tual notamment a les épaules, a une bonne tête de médaillé d'or, ça sera peut-être un peu plus compliqué que prévu.
Alors, c'est tout de suite sur RMC dans l'Intégral Sport en direct de Munich avec Renaud Longuèvre et Aurélien Tiercin. À tout de suite.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Adrien Aigouin, Pierre Dorian.
Avec Renaud Longuèvre et Aurélien Tiercin au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich dans un quart d'heure. Ce sera le tennis. On va prendre des nouvelles de Raphaël Nadal avec Marion Bartoli. Et puis ensuite le foot à partir de 16h. Roland Courbis nous rejoindra. Mais nous sommes dans ces championnats d'Europe et il y a encore de belles finales aujourd'hui. Et notamment, alors c'est pas une finale, c'est le deuxième tour du 800 mètres masculin avec des vrais chance de médaille, Aurélien, on va les rappeler. Gabriel Tual, Benjamin Robert.
Oui, exactement. Les deux petits jeunes qui ont pris la suite de Pierre-Ambroise Boss, qui aurait dû être le troisième cet été, mais qui est blessé. Il avait, alors là, j'ai un petit trou de mémoire au niveau précisément le médical, mais c'est une désinsertion d'un tendon.
De l'ischio.
Et du coup, c'est surtout que s'il forçait et que ça pétait, là, c'est fin de carrière. Donc, ils ont préféré lever le pied. Et je dis que les deux petits jeunes, Gabriel Tual et Benjamin Robert, succèdent à Pierre-Ambroise Boss, puisque c'est d'ailleurs grâce à Tual et Robert au Mythique de Charletti, ils ont joué un petit peu les lièvres de Pierre-Ambroise Boss pour lui faire réussir les minima. Mais bref, il est blessé, il n'est pas là.
Il y a une désinsertion et donc partielle du tendon de l'ischio-jambier.
Exactement. Voilà, exactement. Donc ça, faut prendre ça très au sérieux.
Parce merci, que si docteur Aigouin. Merci.
50 euros, s'il vous plaît.
Pour parler 800, nous accueillons Bruno Gagère, l'entraîneur de Renel Lamotte. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous.
On parlera de la finale féminine dans un instant. D'abord sur les garçons, Gabriel Tual, seul européen en finale du 800 mètres au championnat du monde de Eugene. Moi, je réfléchis comme un benet. je me dis, c'est le seul européen en finale, donc il doit être champion d'Europe, Renaud.
Oui, mais
ça marche pas comme ça, quoi.
Ça marche pas comme ça parce que il y a un invité de dernière minute, celui qui a battu Ingebrigtsen sur 1500 mètres, Jake Whiteman, l'anglais Whiteman. Et entre temps, il est allé à Monaco, il a tapé tous les spécialistes du 800 mètres sur un 1000 mètres, et là, il est au départ du 800. Alors Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Les Français, Whiteman. Bruno Gagère en pleine digestion de sa pizza burrata. Je le sais puisque j'ai mangé depuis.
C'est pas diététique, ça, pizza burrata.
Oui, non, mais c'est pour les athlètes, la diététique. Et bah, écoute, Whiteman fait peur, mais ça c'est sûr. Hein, 2-13 au 1000, c'est très costaud. Après, ils ont d'autres arguments. Je pense que s'ils arrivent à la. Si ça court plus ça courra vite, plus ça sera favorable aux Français qui sont des purs spécialistes. Voilà, mais bon, c'est très difficile de savoir comment va se courir un 800 mètres. Donc, il faudra qu'il s'adapte et pour le battre, il faudra quand même le surprendre.
Le 800, c'est autant, enfin, peut-être pas autant, mais beaucoup de tactique, beaucoup plus que dans d'autres disciplines.
Bah, c'est de la tactique tant que c'est pas des courses records, quoi, parce que. Tant que c'est des courses qui se courent à 3 à 4 secondes au-dessus du record, oui, là, il y a de la tactique, c'est du pur demi-fond. Après, quand ça court très vite, ça se rapproche un peu du 400 quand même, quoi, où on court vers l'épuisement, quoi.
Aurélien.
Il n'y a pas de finish rapide.
Ouais, bah on peut d'ailleurs prouver ce que dit Bruno tout simplement avec Benjamin Robert qui a couru en 1:43.75, qui est l'Européen qui était l'Européen le plus rapide en arrivant à Eugene. Bon là, il est désormais 7e mondial, 1:43.75. Et bah il n'arrivait pas à passer les tours en série. Alors il a été repêché un peu de manière miraculeuse en demi-finale. Pareil, il n'est pas rentré dans les meilleurs de sa demi et donc il a été éliminé alors que ça courait en 1:45, presque 1:46. Et malgré lui, il a 3 secondes de moins dans les jambes, mais il n'arrivait pas à passer devant les autres. Alors que Gabriel Tual, au contraire, court un tout petit peu moins vite, mais lui arrive à toujours arriver dans le dernier virage et passer la ligne en tête ou deuxième, assurer sa qualification.
Qu'est-ce que ça représente comme chrono 1:43.75? C'est potentiellement une médaille mondiale?
Oui, je pense. Voilà, après. C'est toujours des courses de troisième tour, donc il faut avoir encaissé trois tours de 800 mètres, enfin deux tours de 800 mètres avant de réaliser une 43. Mais bon, voilà, des courses à une 43, c'est des finales, oui, c'est le niveau de finale, mais avec deux jours dans les pattes avant. Quoi.
Alors, qu'est-ce qui lui manque à ce garçon, Benjamin Robert, pour réussir des grands championnats Renault? Parce que les chronos sont là, les perfs un peu moins.
Bah, il a un chrono donc en meeting, mais comme Bruno le dit, c'est un championnat, c'est trois courses. Un meeting, c'est et puis faut monter en puissance à chaque course. Un meeting, c'est one shot, c'est une course. Donc c'est pas pareil parce que il faut être capable de récupérer. Et puis moi j'ai envie de dire, il faut de la confiance. Il faut de la confiance parce que quand t'as répété par exemple au championnat d'Europe en salle en Pologne, éliminé au premier tour, Tokyo ça s'était mal passé. Moi, j'ose espérer parce que j'ai envie de croire en ce gamin, j'ai envie de croire en son potentiel. Il travaille bien avec son coach Sébastien Gamel. J'ai envie d'espérer que Eugene, avec ce repêchage un peu miracle et le fait qu'il ait fini à la porte de la finale, bah, lui a donné de la confiance. Le premier test, c'est ce soir. Ce soir, la demi-finale va être une clé intéressante pour voir son comportement, pour voir s'il a les épaules pour aller chercher quelque chose et une médaille.
Il y aura de la pression. Il y a eu des larmes à Eugene hein, dans les. Quand il était sorti, Sébastien Gamel, il était en larmes. C'était une énorme déception parce qu'effectivement, tu l'as dit, ça se répète depuis quelques compétitions. Il doit y avoir quand même une grosse pression avant ces demi-finales aux Europes.
Quelles sont les conditions pour rentrer en finale, Aurélien?
Bah, il faut terminer dans les deux premiers et puis il y aura trois premiers pardon et il y aura deux repêchés autant sur les deux demi-finales.
D'accord. Donc ça on le vivra ce soir avant la finale du 400 et puis demain c'est la finale féminine avec Renelle Lamotte donc l'athlète de Bruno Gagère, deux fois vice-championne d'Europe. Donnez-nous des nouvelles de Renelle, est-ce qu'elle est dans une forme optimale pour aller chercher un titre européen?
Bah, il semble parce que bon, elle était très fatiguée entre bon le Eugene, le décalage horaire, plus la charge virale qu'elle a attrapée là-bas. Là, c'est remonté très tranquillement, tout doucement. Il semblerait que là, elle ait tous ses moyens pour la finale de demain. Quoi. Donc,
alors, d'où vient le danger pour Renel?
Ah bah là c'est le crunch, hein. Il y a trois anglaises dans le... voilà, donc ça va se jouer, voilà, c'est va défier les anglaises à l'engagement. Non mais c'est voilà, ça va se jouer je pense avec les anglaises. Après il y aura quelques outsiders, mais ça va être
et surmonter ses émotions, Bruno.
Pardon,
surmonter ses émotions aussi, parce que Renel est très émotive par rapport à ses courses, malgré son palmarès. Elle est toujours toute tremblante devant nous avant ses courses. C'est comment vous, oui, bah, vous c'est, prévoyez
bah, ça? Elle travaille beaucoup là-dessus, hein. Il y a beaucoup de monde autour, hein. Je suis pas tout seul, hein. Il y a toute une équipe qui travaille pour maîtriser les qu'elle maîtrise ses émotions, hein. Myriam Salmi, Christine Hanon, il y a beaucoup de gens qui font partie de notre team. Et puis voilà, bon, bah, petit à petit, elle y arrive, hein, on progresse à tout âge. Donc, demain, elle va défier les Anglaises et notamment Hutchinson, une des meilleures du monde sur son terrain. Donc, voilà, ça sera une course très intéressante, une belle confrontation, ce qu'on recherche depuis un moment, d'avoir une confrontation au plus haut niveau avec une vice-championne du monde, vice-championne olympique. On ne peut pas rêver mieux, quoi.
Renel Lamotte, donc c'est demain 20h15 pour la course, la finale féminine du 800. Et ce soir, c'est le deuxième tour pour les messieurs. Et donc, Gabriel Tual et Benjamin Robert. Merci, Bruno Gagère.
Bonne journée, bonne soirée.
Aurélien, on se retrouve à 17h30 pour détailler le programme de la soirée. Et puis, petit exercice pour Renaud Longuèvre. Nous, avec Adrien, donc, tu nous as donné des clés pour perdre du poids. Toi, tu vas faire un exercice différent. Tu vas parler tennis, faire un débat de tennis avec Marion Bartoli tout de suite, tu vois.
Oui, il doit être bon au tennis.
On arrête d'atteler un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, donc on te garde sur le
Renaud, tennis. Renaud, tu dois être un crocodile en tennis, toi. Tu dois être pénible à jouer. Tu dois ramener toutes les balles,
moi,
c'est ça.
Ouais, Adrien, tu sais ce que c'est. Moi, je fais que des amortis, des coupés,
oui,
le truc. Et des balles qui montent super haut. Et les mecs, ils sont écœurés.
Ils deviennent fous, bah oui, bien sûr.
La folie. Le winning dirty de Brad Gilbert. Le gagné sale. Et vous avez entendu Bruno Gagère, message pour Adrien Aiguin, on peut progresser à tout âge.
Merci.
C'était pour lui aussi. La diététique, c'est pour les athlètes, donc c'est pas pour les athlètes, mais c'est du coup pas non plus pour les journalistes, hein. T'as entendu, hein. Pizza burrata, tu m'as fait rêver. Tu sais, je reviens d'Italie, j'étais au pays de la burrata, donc là je m'en suis gavé.
Ah ouais.
À tout de suite. Raphaël Nadal.
Ce petit bidou qui est apparu,
voilà,
également pendant l'été.
Voilà. Bon, il était déjà là avant, t'inquiète pas. Dans un instant, Raphaël Nadal, peut-il encore gagner un grand chelem? On va faire le point avec Marion Bartoli à une semaine de l'US Open. A tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
L'Intégral Sport avec Renaud Longuèvre et Marion Bartoli qui nous rejoint. Salut Marion.
Salut les amis.
Salut Marion.
Comment ça va?
Très bien. Salut Marion, on est ravis de te retrouver à l'antenne d'RMC. Alors on va parler tennis, Renaud. C'est vrai qu'on a fait une toute petite entorse à notre heure d'athlète. Tu sais qui a fait un carton sur les réseaux sociaux. T'es devenu une véritable star de l'antenne d'RMC. Renaud, on nous dit c'est génial parler d'athlète pendant une heure l'après-midi avec Maryse.
Athlète diététique.
Voilà.
Mais là, attention.
On a plus sorti de saucisses que de parler d'athlète.
Ah mais c'est le principe, c'est chez nous.
Bah voilà, résumer le concept d'RMC Sport, Renaud.
Entre 15h et 18h, on va dire.
Marion, elle est déjà au fait de tout ça. Donc,
oui,
tu vois,
moi, ça y est, j'ai pris le pli.
On n'a plus besoin. Bon. Marion, elle bossait trop au début, elle a compris, elle a ralenti.
Elle a fait deux émissions avec Moscato, elle a compris qu'il ne fallait plus bosser.
Alors, dans une semaine, c'est le début de l'US Open. Deux interrogations. Quelle Serena Williams et quel Raphaël Nadal va-t-on voir? Nadal n'a pas gagné un match depuis son forfait en demi-finale de Wimbledon, puisqu'il s'est fait sortir d'entrée à Cincinnati par Borna Koric. Et c'était pas son pied finalement, hein, qui lui avait valu l'abandon à Wimbledon, c'était les abdominaux. Donc il y a plein d'incertitudes finalement sur Nadal.
Bah beaucoup, parce qu'en fait il a effectivement eu cette déchirure lors de son match contre Fritz. Alors il s'en était sorti au courage, au mental, à toute l'expérience qu'il a. Mais bon, effectivement son adversaire avait aussi quand même un petit peu eu peur au moment de conclure. Et puis, il avait dû déclarer forfait pour sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Il a dû prendre du repos forcé, parce que forcément, avec une déchirure abdominale, bah, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas frapper de balle. Donc, ça s'est vu sur son match contre Coric. Il manquait quand même beaucoup de rythme. Et il manquait la puissance dans sa frappe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur dur, si Rafa met pas assez de puissance, les autres sont tellement capables de l'agresser en permanence qu'il peut pas avoir la même couverture de terrain que sur terre battue. Donc forcément, il est beaucoup plus en difficulté. Après, c'est un joueur qui va vite reprendre beaucoup de volume d'entraînement s'il se sent physiquement en cette capacité-là. Donc je pense vraiment pas du tout qu'il sera éliminé au premier tour de l'US Open, loin de là. Après avoir la capacité d'aller gagner, honnêtement, sur dur, je pense pas que sur cette US Open, ils se disent qu'il est prêt pour aller gagner.
Il dit qu'il est un peu perdu, Mario.
L'Australie, pardon.
Sur sa blessure, on a l'impression qu'il est un peu perdu là. Ce qu'il dit hier, il dit quand on a une cicatrice, elle n'a pas assez de flexibilité, alors on la sent, mais on ne sait pas si on la sent à cause de ça ou si j'ai autre chose. Je vais faire des examens complémentaires.
C'est surtout en fait les abdominaux.
Ouais.
En fait, les abdominaux, c'est une blessure très, vraiment qui est compliquée à gérer en tennis parce que tu les utilises en permanence, bien évidemment comme tous les sports, mais en fait tu les utilises surtout en position d'étirement, raccourcissement intense au niveau du service. Et je pense qu'il doute beaucoup sur ce coup-là. Et on a vu hein, contre Coric, il s'est fait énorme. Même moi agressé, même sur sa première balle de service, il finit sur une double faute. Donc, Rafa, tu sais, c'est un joueur qui est déjà pas mal anxieux. Et c'est vrai que si en plus il a une blessure où il sent qu'il peut, il sait pas s'il peut y aller à fond, pas y aller à fond, bah ça génère encore plus de stress chez lui.
Est-ce qu'on peut.
Malgré tout, moi je pense très sincèrement qu'il va être largement en deuxième semaine de l'US Open, c'est certain. Et tu sais, à l'Open d'Australie, personne ne l'attendait. Il revenait, il avait eu le Covid, tu vois, à Abu Dhabi. Enfin, il était dans des conditions vraiment très compliquées. Il était mené 2-7-0 en finale contre Medvedev. Et il retourne le match et il gagne. Donc, c'est un tel champion que, honnêtement, mettre une croix dessus, dire non, il n'a aucune chance, j'ai beaucoup de mal à prendre cette décision-là. En revanche, est-ce qu'il arrive sous-préparé? Ça, c'est certain.
Et pour un Nadal, avec l'expérience qu'il a, il peut aborder une quinzaine de grands chelems sans un match gagné avant? C'est-à-dire que cette semaine, là, il ne va pas s'inscrire dans un petit tournoi entre guillemets pour faire du rythme, etc. Ouais.
Non, je pense vraiment pas. Il va partir sur New York assez tôt, comme pas mal d'autres joueurs. Il va faire beaucoup de sets d'entraînement, beaucoup de matchs d'entraînement pour essayer de se rassurer. Et puis surtout reprendre confiance en fait dans la frappe. Et c'est encore une fois, c'est le problème vraiment avec des blessures abdominales. C'est qu'effectivement, tu as cette partie musculaire où tu te dis, est-ce que je retente à 100% d'y aller, tu peux avoir une rechute. Ou si tu commences à essayer de gérer ça, ben en fait, tu passes dans un faux rythme. Et surtout lui, qui a un jeu extrêmement physique avec beaucoup d'intensité, s'il ne met pas d'intensité dans ses frappes et qu'il ne se sent pas capable de le faire, ça devient compliqué à gérer. Donc je pense qu'il va plutôt essayer de faire des gros volumes d'entraînement en faisant des sets contre des gros joueurs, essayer de se rassurer à 100%, il va attaquer son grand chelem comme ça. Mais après, il a une telle expérience là-bas que, bien évidemment, en plus sur des 5-7, quand tu vas jouer sur le Arthur Ashe Stadium et que tu es un joueur en face non tête de série et que tu joues Nadal qui a 22 grands chelems
derrière lui,
c'est quand même compliqué à gérer, tu vois.
Donc
c'est plutôt l'autre qui aura la pression quand même.
Renaud, Marion nous l'a rappelé, c'est l'Australie, c'est le scénario de l'Australie, c'est au fil des tours, il devient de plus en plus fort et c'est peut-être ça le scénario qui peut lui permettre d'engranger éventuellement un grand chelem de plus. C'est qu'on sait que s'il jouait un niveau quart, demi-finale ou finale la première semaine, c'est-à-dire à partir du 29 août, il n'aurait probablement pas le niveau. Mais peut-être qu'en enchaînant les tours, il peut refaire éventuellement le coup de l'Australie.
Bah, Marion, j'ai bien aimé tout ce qu'elle a décrit, ce qu'elle a expliqué. Et c'est ça qui conditionne à savoir s'il va y arriver ou pas. C'est que les abdos, comme elle l'a dit, les abdos, ils sont abaisseurs des bras. C'est des muscles qui sont abaisseurs des bras. Donc, ça veut dire que quand tu lèves le bras, bah, tu fais de l'excentrique. C'est-à-dire que t'étires et tu contractes en même temps. Et ça, les muscles, ils aiment pas. 99% des blessures musculaires, c'est dans cette phase de course externe qu'on appelle, qu'elles arrivent. Alors, le truc, c'est que comme ça lui est tombé dessus, eh ben, c'est que du repos. Malheureusement, tu peux pas. Il a été obligé de lâcher la raquette après Wimbledon. Et après, ça te fait un trou dans le spécifique, dans l'entraînement spécifique. Et ça, en tennis, enfin, Marion pourra le confirmer ou l'infirmer, mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Fabrice Santoro qui m'avait dit, mais Renaud, quand tu coupes un peu, c'est tellement dur de regagner le rythme spécifique et tout ça. Je crois pas que de mémoire, ça existe des joueurs, par exemple, exemple, qui aient arrêté leur carrière temporairement et qui soient revenus, parce que c'est trop dur, je crois, de revenir comme ça. Alors là, c'est pas une interruption très longue, mais c'est juste pour vous donner une image de ce qu'il a perdu, de ce qu'il a perdu en désentraînement. Et maintenant, il faut le regagner, quoi. Et le point d'interrogation, il est sur est-ce qu'il aura assez de temps pour regagner, quoi.
L'avantage pour lui, c'est que peut-être son pied aura profité de ce repos forcé. C'est possible, puisqu'on sait qu'il ne peut plus enchaîner le même nombre de matchs qu'avant, hein, avec cette blessure au pied. Marion, disons un mot de Serena Williams, qui a annoncé que l'US Open serait son dernier tournoi tout court, hein, puisqu'ensuite c'est la retraite. Est-ce que là, tu as une idée aussi du niveau qu'elle peut afficher à New York?
Alors chez Serena, c'est tellement compliqué parce que bien évidemment, il va y avoir une part émotionnelle qui va être extrêmement importante. On a vu sa déception lors de sa défaite contre Raducanu à Cincinnati. Elle est partie extrêmement vite du terrain. Les organisateurs avaient prévu une petite cérémonie. Elle est partie directement. Donc il y aura cette partie émotionnelle forcément extrêmement grande. Et est-ce qu'elle va être capable de performer avec autant enfin en étant quasi à fleur de peau, c'est très compliqué de le gérer. Après, sur le plan du niveau de jeu, alors je dis pas que c'est comme Rafael Nadal, mais c'est vrai que c'est quand même une fille qui a cette capacité, une championne hors norme, de se lancer au fur et à mesure des matchs et d'élever extrêmement rapidement son niveau de jeu. Si, comme elle le dit elle-même d'ailleurs, les choses commencent à cliquer un petit peu dans son sens au fur et à mesure des matchs. C'est vrai que c'est en étant non tête de série, si elle a un tirage très compliqué au premier tour, forcément, il va lui manquer beaucoup de rythme et beaucoup de points de repère. Si le tirage est un petit peu clément et qu'elle commence à se lancer avec 1, 2, 3 matchs, sachant qu'elle a un jour de repos entre chaque match, donc elle aura temps physiquement de récupérer, il y aura moins cette dimension physique que lors d'un tournoi, par exemple, comme Cincinnati, où il faut enchaîner tous les jours, ou Toronto, il faut enchaîner tous les jours. Tu vois, elle peut, avec l'adrénaline, le public, ça va être une ambiance absolument de folie à New York, tout le monde va être pour elle. Elle peut là-dessus, sur un petit peu cette rage du dernier tournoi où elle veut bien finir, je pense qu'elle peut aller beaucoup plus loin que ce que beaucoup d'experts du tennis peuvent prédire.
Mais rappelons quand même que sait-on jamais, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'elle n'a plus gagné de Grand Chelem, qu'il ne lui en manque qu'un
2017, ouais.
Pour aller chercher le record absolu de Margaret Court, après lequel elle...
En fait, c'est légalisé.
Légalé, oui, mais ça serait déjà magnifique.
Ça aurait été le... mais son rêve, ça aurait été d'être au-dessus. Mais je crois que plutôt pour Serena, si tu veux, c'est d'essayer vraiment de ne pas perdre au premier tour, au deuxième tour, comme elle l'a fait à Toronto, au Cincinnati, et de finir sur une très grande note. Mais c'est aussi quand tu veux tellement bien faire, que tu te mets tellement de pression supplémentaire, que tout peut s'écrouler. Donc, en tout cas, je pense que toute la planète tennis sera sur ce match de Serena Williams au premier tour. À mon humble avis, ça va dépendre beaucoup du tableau. Mais j'ai envie quand même, pour la belle histoire, qu'elle aille très très loin.
Marion, tu restes avec nous, on va parler foot, c'est l'heure du foot avec Roland Courbis. Débat sur ton club préféré en plus, le Paris Saint-Germain, ça tombe bien.
Marion, le club de ton cœur.
Et Renaud, on te remercie pour cette semaine magnifique.
Merci Renaud.
Sur RMC.
C'était un grand plaisir partagé.
Et puis, tu nous surveilles quand même Aurélien, il a un week-end à finir. Hein. Donc,
ouais,
pas
alors là, il a un maillot du Bayern.
Oui, il fait la collection des maillots, ce jeune homme. Il y en a, une cinquantaine.
Quelle démagogie. je vais lui mettre un peu de noir, ça fera rouge et noir. Allez Rennes, allez le Stade Rennais. Allez, je vous file.
Salut Renaud, à bientôt.
Les amis.
Salut Renaud.
Dans un instant, Christophe Galtier saura-t-il gérer le clash Neymar-Mbappé? Vous l'entendrez à propos du fameux penalty gate de la semaine dernière contre Montpellier. Et puis encore plein d'infos fraîches sur le mercato à Paris, à Marseille, à Nice aussi sur RMC. À tout de suite.
RMC
Intégral Sport.